أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
La traduction de ce verset est comme suit. En vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle pour celui qui garde l'espoir en Allah et le jour dernier, et qui se souvient d'Allah beaucoup. Quelqu'un demanda à Aïcha radhiyallahu anha de parler des nobles mœurs et de l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha a répondu : n'as-tu pas lu le Saint-Coran ? Allah le Tout-Puissant y a lui-même témoigné de son exemple. Tout comme Allah déclare : Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. C'est-à-dire : ô messager, tu es assurément au plus haut degré de la moralité. Par conséquent, les exemples sont faits de ceux qui sont au plus haut degré dans un domaine. En ce qui concerne le saint prophète Mohammed peace be upon him, qu'il s'agisse des droits de Dieu le Tout-Puissant ou des droits des hommes, eh bien le saint prophète Mohammed peace be upon him occupait dans les deux domaines la position la plus élevée, comme Dieu lui-même en a témoigné. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant nous a dit que ce messager est un modèle pour nous. N'écoutez pas seulement ses paroles, mais mettez-les en pratique aussi. Il ne suffit pas de croire. Lorsque vous allez agir, vous atteindrez certainement le rang pour lequel j'ai envoyé ce messager. C'est donc la responsabilité de chaque musulman, de chaque croyant. Dans le monde, il y a des gens qui accomplissent de bonnes œuvres, qui accomplissent quelques bonnes actions ou qui accomplissent un travail qui les rend célèbres, et leur nom brille de mille feux. Ils reçoivent de grands prix et de grandes récompenses. Certains reçoivent le prix Nobel ou d'autres prix. Mais ces prix sont décernés par un comité ou par un État désigné pour cette tâche. Il n'est jamais arrivé qu'une nation tout entière soit d'accord sur un fait. La véritable récompense est celle que les gens ont donnée au saint prophète Mohammed peace be upon him durant sa jeunesse, alors qu'il n'avait pas encore été choisi comme prophète, en le nommant As-Sadiq et Al-Amin, c'est-à-dire le véridique et celui qui était digne de confiance. Il n'avait pas besoin de récompense ou de reconnaissance, mais aux yeux des gens, il avait atteint une position inégalable et toute la nation lui avait donné ce titre. C'est donc la place qu'occupe l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a lui-même déclaré : suivez ma sunna, suivez mes actions, car Allah m'a envoyé pour vous réformer. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse de caractère ». Ainsi, seul celui qui possède toutes ces qualités et en qui on retrouve toutes ces vertus accomplit ce perfectionnement du caractère. Comme je l'ai dit, Dieu lui-même a déclaré qu'il est pour nous un excellent modèle. C'est pourquoi nous devons accorder à sa vie une telle importance que nous mettions en pratique tout ce qu'il nous a dit. Et tout ce qu'il a dit est fondé sur les commandements du Saint-Coran. Tout cela vient de la part de Dieu. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est le meilleur exemple de chaque qualité morale qu'un humain peut posséder, qu'il doit posséder, ou qui sont des attributs d'Allah. Le deuxième calife de la communauté, dans son ouvrage « L'introduction à l'étude du Saint-Coran », a présenté ces points. Ces points sont également présents dans nos livres sur la vie et le caractère du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui, concernant sa moralité, concernant sa biographie. J'en mentionnerai brièvement quelques points aujourd'hui et je vais présenter ces points davantage à l'avenir lorsque l'occasion se présentera. De prime abord, il y a le droit d'Allah, c'est-à-dire le devoir de rendre culte à Allah. Quel est l'exemple chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Nous constatons que toute la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était plongée dans l'amour d'Allah. Malgré les grandes responsabilités qui pesaient sur lui, il devait promulguer une nouvelle loi, éduquer les gens. Et tout comme l'a dit le Messie premier, il a transformé les ignorants en êtres humains. Et de ces êtres humains, il en a fait des humains cultivés pour ensuite en faire des hommes de Dieu. C'était là un travail immense. Mais même en ce cas, il n'a jamais oublié le droit d'Allah. Et c'est là le droit d'adorer Allah. Et c'est un point très important. Durant cette période, il a rencontré des difficultés, il a dû partir en guerre. Des ennemis l'ont attaqué, mais il n'a jamais manqué à son devoir quant au culte de Dieu. C'est là l'exemple qu'il nous a présenté. Nous devons en toutes circonstances garder Allah à l'esprit. Et lorsque nous allons garder Allah à l'esprit, nos différents problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Les gens posent des questions à ce sujet et les gens disent « nous avons tel ou tel problème ». Ils affirment que nous avons prié ainsi ou ainsi. Ils prient pour leurs problèmes, mais nous ne nous acquittons pas du droit d'Allah. Et c'est pourquoi l'homme vit dans la privation. Allah déclare « acquittez-vous aussi de mes droits ». Quels étaient les critères des actes d'adoration du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui se levait pour adorer Dieu quand la nuit était passée. Il se levait quand la moitié de la nuit était passée et Dieu en a porté témoignage. Aïcha radhiyallahu anha relate qu'une fois, alors que le saint prophète paix soit sur lui était debout pour rendre culte à Dieu, je lui ai dit « Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes déjà honoré par Dieu le Tout-Puissant. Alors pourquoi vous infligez-vous une telle souffrance ?» en passant la majeure partie de la nuit en adoration, en implorant Dieu. Le saint prophète paix soit sur lui a répondu, « Ô Aïcha, ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Il est vrai que je suis honoré par Dieu et que Dieu m'a accordé cette proximité par sa grâce. N'est-ce pas mon devoir de le remercier autant que possible? Car après tout, la gratitude se fait en réponse à la bienveillance. » Considérez la grâce que Dieu lui a accordée en faisant de lui le dernier prophète de loi, en complétant le dernier livre par son entremise et en complétant la loi par son entremise. Suite à cela, il a déclaré « Ne devrais-je pas être reconnaissant envers Dieu ?» Et selon sa situation, Dieu a accordé beaucoup de faveurs à chaque personne. Et il est juste, en signe de reconnaissance, que nous élevions le niveau de nos actes d'adoration. Les gens posent des questions, dont les jeunes qui demandent « Comment devons-nous adorer Allah ? Allah a-t-il besoin de nos actes d'adoration ? » Cette question est aussi souvent posée. Les enfants aujourd'hui posent ces questions en étant influencés par le monde d'aujourd'hui. La réponse est que Allah n'a pas besoin de vos actes d'adoration, mais les bienfaits religieux et mondains qu'Allah vous a accordés n'exige-t-il pas que vous le remerciez pour ses faveurs, pour ses bienfaits, et que vous deveniez un serviteur reconnaissant? De même, dans la vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, on trouve un autre événement. Lorsqu'il entendait la parole de Dieu, il était submergé par l'émotion et ses yeux se remplissaient de larmes. Surtout quand il était question des versets lui rappelant ses responsabilités. Ainsi, dans un récit, il est dit qu'un jour, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à Abdullah bin Mas'ud que « Récite-moi le Saint-Coran ». Abdullah bin Mas'ud a déclaré « J'ai répondu, ô messager d'Allah, le Saint-Coran vous a été révélé. Comment puis-je vous le réciter ?» Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « J'aime entendre le Saint-Coran récité par d'autres personnes. » Abdullah bin Mas'ud rapporte qu'il a commencé à réciter la sourate An-Nisa. Et lors de sa récitation, il est arrivé sur ce verset. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. C'est-à-dire, quel sera l'état de ce peuple quand nous ferons venir de chaque nation son prophète, le faisant témoigner contre sa nation, et que nous te ferons témoigner contre ta nation. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Arrête, arrête !» Le compagnon a déclaré que j'ai regardé le saint prophète, paix soit sur lui, des larmes coulaient à foison de ses yeux. Une telle crainte l'avait envahi et à ce moment-là, il était certainement soucieux de son peuple, de peur que son peuple ne commette une action qui va provoquer la colère d'Allah et que je dois témoigner contre mon peuple par la suite. Mais il en ressort également un autre aspect. Si le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, témoignera de nombre de choses, nous devons craindre que le témoignage du saint prophète, paix soit sur lui, ne se retourne contre nous, que notre réalité ne se révèle pas d'une manière qui expose nos péchés et nous fasse mériter le châtiment d'Allah. Il y a là matière à s'inquiéter. Nous devrions également nous acquitter de ces mêmes devoirs et aimer Allah comme nous l'a enjoint le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et comme Allah nous l'a ordonné dans le Saint-Coran. Considérez sa constance dans la prière. Il y accordait une telle importance que même dans un état de maladie grave, durant ces derniers jours où il est permis de prier allongé, l'histoire nous rapporte qu'il s'est rendu à la mosquée en se faisant soutenir par des gens. Et un jour, il n'a pas pu partir à la mosquée, il a ordonné à Bakr de diriger la prière. Lors de cette période, il a constaté une amélioration dans son état et il s'est immédiatement mis en route vers la mosquée soutenu par deux hommes. Aïcha Radetalanra rapporte que dans cet état, ses pieds traînaient sur le sol. Mais l'importance de la salat en congrégation était sa priorité. Il voulait le montrer à sa communauté, c'est pourquoi il a enduré cette souffrance. Il est arrivé en traînant les pieds. Et il est parti à la mosquée sans se soucier de sa maladie. Tel était donc l'état de son amour pour Allah et à cet égard, comment formait-il les gens? Premièrement, il a souligné l'importance de la régularité dans la salat. Ensuite, il a fait prendre conscience aux gens de la grandeur d'Allah et de sa position. Comment a-t-il éduqué les gens à cet égard? Il était courant chez les Arabes de frapper les mains pour attirer l'attention, et cette coutume était courante à cette époque. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mis fin à cette coutume. Il a déclaré qu'il fallait la remplacer par l'invocation d'Allah. Il est écrit à ce sujet qu'une fois, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était occupé par quelque chose et l'heure de la prière est arrivée. Il a déclaré qu'on demande à Abu Bakr de diriger la prière. Sur ce, il a terminé et il s'est immédiatement dirigé vers la mosquée. Quand il est arrivé à la mosquée, Abu Bakr radhiyallahu anhu dirigeait la prière. Lorsque les gens ont su que l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, était arrivé à la mosquée, les fidèles ont commencé à applaudir avec impatience. Il s'agissait d'une part de montrer qu'ils étaient immensément heureux de l'arrivée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'autre part d'attirer l'attention d'Abu Bakr radhiyallahu anhu sur le fait que son imamat était terminé, car le messager d'Allah, paix soit sur lui, était arrivé. Abu Bakr radhiyallahu anhu recula et laissa la place de l'imam au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après la salat, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Abu Bakr, pourquoi as-tu reculé alors que je t'avais ordonné de diriger la prière? Abu Bakr a répondu dans sa sublime sincérité que, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel statut le fils d'Abu Kahafa avait-il pour diriger la prière en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, s'est tourné vers les compagnons et a déclaré: quelle était votre intention en frappant dans vos mains? Il n'est pas approprié de frapper dans ses mains lors de l'invocation de Dieu. Au moment de la sola, lorsque quelque chose se produit qui nécessite d'attirer l'attention, au lieu de frapper dans vos mains, vous devriez prononcer le nom de Dieu à haute voix. Il faut dire Subhanallah et quand vous ferez cela, l'attention des autres se tournera automatiquement vers cet événement. De même, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas le culte affecté. Malgré toute l'attention portée sur les actes d'adoration, il disait qu'il ne fallait pas avoir d'affectation dans la sola. Un jour, il est entré dans la maison et il a vu une corde suspendue entre deux piliers. Il a demandé pourquoi cette corde était attachée là. Les gens ont répondu que c'était la corde de Zainab radhiyallahu anha et que lorsqu'elle se fatiguait en rendant culte à Dieu, elle s'en servait pour se soutenir. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré qu'il ne fallait pas faire ainsi et qu'il fallait défaire cette corde. Chacun devrait prier tant qu'il ressent de la joie dans son cœur. Et quand il est fatigué, il peut s'asseoir. Ce genre d'adoration forcée ne peut apporter aucun bénéfice. Cela montre que d'une part, les femmes compagnes et les membres de sa famille ainsi que ses proches étaient désireux de prier et se mettaient en difficulté en raison de son enseignement. D'autre part, il a également dit qu'il n'était pas nécessaire de se mettre en difficulté, mais qu'il fallait prier confortablement. Mais je voudrais également dire aux gens d'aujourd'hui qu'il ne faut pas en tirer de mauvaises conclusions. Certains ont commencé à dire que de nos jours, il ne faut pas se mettre en difficulté, il faut donc prier rapidement et accomplir cette obligation et s'en débarrasser au plus vite. Ainsi donc, on a commencé à interpréter cela exactement à l'inverse, en disant qu'il faut se soucier de son propre confort. Aujourd'hui, certains fidèles viennent à la mosquée, ils prient rapidement, ils accomplissent leur prière en quelques minutes, ou bien ils prient chez eux et en quelques minutes, ils terminent leur prière. Souvent, ici même, des gens me demandent comment prier. Il faut accomplir la sola en en bénissant sa sola. À ce sujet, il existe un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon lequel il a enjoint à un compagnon de prier 3 ou 4 fois. Ce compagnon était arrivé tard de l'assemblée. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était assis dans son assemblée. La prière en congrégation était terminée et l'assemblée se tenait là. Chaque fois que ce compagnon priait et revenait vers lui, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui disait: retourne prier. Ensuite il priait et le saint prophète paix soit sur lui disait encore une fois: retourne prier. Il a ainsi incité à prier 3 ou 4 fois. Lorsque le compagnon lui a dit qu'il ne savait pas mieux prier, il lui a demandé comment faire. Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu: prie lentement, mentionnant la personne de Dieu, récite le Daroud, évoque l'unicité de Dieu et loue Dieu, et assure-toi que les prosternations et les inclinations soient correctes. Ainsi, il ne faut pas oublier ce point. Prier avec aise ne signifie pas prier rapidement, car un hadith dit qu'il faut prier avec aisance. Certains disent: nous avions sommeil, nous avons prié rapidement en 2 minutes. De toute façon, il est interdit de prier en état d'inconscience. Ceci n'est pas permis. Au contraire, quand on prie, il faut accomplir tous ses devoirs. Voilà ce que nous a enseigné le saint prophète Mohammed B.S.A.W. Il avait une telle aversion pour le shirk que pendant son agonie, lorsqu'il était sur le point de mourir, il se tournait tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche, tout en disant que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens qui ont transformé les tombes de leurs prophètes en lieux de culte. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant les tombes de leurs prophètes et adressent des prières à ces prophètes. Son intention était que si ma nation commet un tel acte après moi, qu'elle ne croit pas qu'elle va mériter mes prières. Au contraire, je vais désavouer mon peuple entièrement. Comme mentionné précédemment, Dieu va lui demander son témoignage. Regardez maintenant à Médine, l'État a imposé de grandes restrictions sur le tombeau du saint prophète Mohammed B.S.A.W. pour cette raison, ne permettant à personne de se prosterner ou de s'approcher de la tombe du saint prophète B.S.A.W. Cependant, dans de nombreux pays musulmans, on se prosterne devant les sanctuaires des saints et des fakirs et l'on implore les aînés. Cette pratique est du shirk, ce que le saint prophète B.S.A.W. a interdit. Et il a interdit cela à lui-même. Quel droit un autre saint ou aîné puisse avoir qu'on se prosterne devant sa tombe? Par la grâce d'Allah, en ayant accepté le Messie premier d'Islam, nous nous sommes préservés de ces pratiques. Mais nous devons néanmoins atteindre les niveaux élevés dans le domaine de l'adoration. Mais cette pratique est très répandue parmi les autres musulmans. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah leur donne sagesse et compréhension pour qu'ils renoncent à ce shirk. L'humilité du saint prophète Mohammed B.S.A.W. devant la personne de Dieu était telle que lorsque les gens lui disaient au messager d'Allah B.S.A.W. « Vous obtiendrez la faveur de Dieu par la force de vos œuvres, car Allah vous a accordé une reconnaissance et Allah a loué votre moralité. » Et Allah a fait de votre exemple une norme pour les actions des musulmans, ce qui signifie que vos actions sont telles que Dieu vous pardonnera vos péchés ou que Dieu vous a pardonné. Sur ce, le saint prophète Mohammed B.S.A.W. répondait, « Non, non, je ne serai pardonné que par la grâce de Dieu. » Ainsi, Abu Huraira radhiyallahu rapporte qu'un jour, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer, personne n'entrera au paradis par ses propres œuvres. J'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même vous, est-ce que vous n'allez pas entrer au paradis par vos œuvres? Il a répondu, même moi, je n'entrerai pas au paradis par mes œuvres, à moins que la grâce et la miséricorde d'Allah ne m'enveloppent. C'est là la seule façon d'entrer au paradis. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari. Ensuite, il a conseillé ceci. Choisissez la vertu dans vos actions et rechercher les voies qui mènent à la proximité de Dieu. Il a déclaré, « Qu'aucun d'entre vous ne souhaite la mort. S'il est vertueux, il va augmenter ses bonnes œuvres en vivant. Et s'il est pécheur, il aura l'occasion de se repentir de ses péchés en vivant. C'est-à-dire s'il en prend conscience. » C'est un conseil très important que nous devons garder à l'esprit. C'est-à-dire ne jamais souhaiter la mort. La raison qu'il a donnée est que si quelqu'un le fait en raison d'une souffrance, c'est toujours parce qu'on souffre que l'on souhaite la mort. Il explique que si vous avez accompli de bonnes œuvres, Allah vous accordera l'occasion d'en accomplir davantage et vous connaîtrez ce qu'il y a de mieux dans l'au-delà. Il vous pardonnera vos péchés et si vous avez commis des péchés, vous aurez la possibilité de vous repentir et de demander pardon si votre attention se porte à cela. Et vous serez sauvés des péchés, ensuite vous obtiendrez la proximité d'Allah. Et quand le moment viendra, Allah vous accordera le pardon. Le pardon sera possible. Nous avons constaté quel était le niveau de ses actes d'adoration. Il a également attiré l'attention des autres sur ce point. Il est rapporté qu'une fois la nuit, il s'est rendu chez son gendre Ali et sa fille Fatima et il leur a demandé s'ils accomplissaient la prière de Tahajjud. Ali Aradutalanhu a répondu au messager d'Allah, « Nous tentons de l'accomplir, mais quand par la volonté de Dieu nos yeux ne s'ouvrent pas, nous manquons à la prière de Tahajjud. » Le saint prophète Mohammed B.S.A.W. a déclaré, « accomplissait la prière de Tahajjud. Ensuite, il s'est levé et il est reparti chez lui, et en cours de route, il ne cessait de répéter sans cesse « Wakana l'insanu akthara shay'in jadala », c'est-à-dire que l'homme hésite souvent à admettre ses erreurs. Et il dissimule ses erreurs en avançant différents arguments. Le saint prophète Mohammed Pissos à lui leur a expliqué cela. Et en cours de route, lorsqu'il retournait chez lui, il répétait ses paroles afin que d'autres personnes transmettent cela à Ali. Et il leur a enseigné qu'ils auraient dû dire que nous sommes fautifs et que nous ne nous réveillons pas parfois. Et ils ont attribué cela à Allah le Tout-Puissant en disant que si Allah l'avait voulu, nous nous serions réveillés, sinon nous ne nous réveillons pas. Son objectif était de faire comprendre à l'autre pourquoi attribuer ses erreurs à Allah. Comme mentionné précédemment, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'aimait aucune sorte d'affectation ou d'artifice dans l'adoration de Dieu. Tout comme une fois il a vu des cordes suspendues dans sa maison, il a ordonné qu'on les retire. Son principe était que les forces qu'Allah a créées en l'homme doivent être utilisées à bon escient. C'est cela le culte véritable. Fermer les yeux ou les faire retirer alors qu'on en possède n'est pas un acte de culte. Au contraire, c'est un acte d'insolence. Oui, les utiliser à mauvais escient est un péché. Aujourd'hui, regardez, il y a tellement de choses en ce monde. Il y a les désirs de l'homme, il y a les attractions qui nous attirent. Si nous y prêtons attention, si nous regardons des programmes inappropriés à la télévision ou sur Internet, ou si nous regardons quelque chose d'inconvenant, eh bien ce sera un péché. Le saint prophète, paix soit sur lui, a dit qu'éviter ce péché est l'essentiel. Et c'est cela qui va vous faire mériter des récompenses. De même, se boucher les oreilles n'est pas une bonne action. Allah vous a accordé une capacité, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est même de l'insolence. Allah vous a accordé une grâce et vous êtes en train de la galvauder. Oui, écouter les médisances et les commérages des gens est un péché. Beaucoup de gens médisent et écoutent les commérages. Ils écoutent de mauvaises choses sur les gens et en tirent même du plaisir. Ils rient en entendant les faiblesses et les erreurs des gens. Ces choses sont mauvaises, c'est un péché. Le saint prophète Mohammed Pissos à lui nous demande d'éviter ces actions. Il a déclaré que les nobles mœurs sont le nom de la bonne utilisation des forces naturelles et qu'éliminer les forces naturelles est une folie. Les utiliser à des fins illégitimes et une turpitude et leur utilisation authentique et correcte est une bonne action. Ceci est un résumé de son enseignement, c'est aussi un résumé de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la raison pour laquelle Allah le Tout-Puissant nous a ordonné de le prendre comme modèle. Au sujet de ses actions, Aïcha radhiyallahu anha rapporte que chaque fois que le messager d'Allah, paix soit sur lui, avait le choix entre deux options, il choisissait toujours la plus simple, tant que cette option ne comportait aucune trace de péché. Ainsi donc, s'il y avait deux voies à suivre, un chemin facile et un chemin difficile, eh bien le saint prophète, paix soit sur lui, avait tendance à choisir le chemin le plus facile. Car Allah ne veut pas mettre les gens en difficulté inutilement. Mais lorsqu'il soupçonnait que ce chemin facile pourrait mener à certains péchés, alors il s'en éloignait et il prenait la voie la plus longue. Il faudrait plutôt dire qu'à la moindre suspicion, il s'en éloignait avec une telle promptitude que nul n'aurait pu faire de même. Personne n'aurait pu déployer autant d'efforts pour s'en écarter. Regardez autour de vous. Il arrive que les gens, pour tromper autrui, se mettent dans des situations difficiles. Afin de mettre de l'avant leur prétendue grande qualité, en disant que nous avons fait des efforts, ceci ou cela, et les prétendus saints aussi tiennent pareil propos. Il y a beaucoup d'histoires à ce sujet, mais le saint prophète, quant à lui, cherchait toujours le chemin de la facilité. En effet, ceux qui agissent par pur apparat, s'imposant des épreuves pénibles pour afficher leur supériorité ou pour être loués pour leur propre grandeur, ne le font pas pour Allah, car Allah n'a aucun intérêt dans leur souffrance et ces gens n'en retirent aucune récompense. Ces gens agissent ainsi pour tromper les gens. Cependant, lorsqu'une personne agit avec une telle duplicité, cette mauvaise intention lui vaut un péché auprès d'Allah plutôt qu'une récompense. Certaines personnes, afin de dissimuler leurs défauts, se livrent à de grandes déclarations pour s'attribuer des mérites. Elles cherchent à se justifier par les moyens en couvrant leurs défauts, se félicitant d'avoir accompli des actions exceptionnelles au prix de grandes difficultés. Et ces gens font de grandes déclarations, mais Allah déclare que non, ces bonnes actions ne vous rapprocheront pas d'Allah, mais ces actions vont susciter son mécontentement, car votre intention n'était pas pure. Pour vous protéger, vous vous engagez parfois dans des actions pour que les gens soient en votre faveur si vous les exposez. Ce sont là de petites leçons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a données à travers son exemple et ses conseils. En ce qui concerne les relations avec l'humanité, cela commence à la maison et voyez comment il traitait ses épouses. C'était un traitement très compatissant et juste. Et si les gens d'aujourd'hui comprenaient cela, beaucoup de disputes et de conflits domestiques disparaîtraient. Parfois, ses épouses étaient dures envers lui, c'est-à-dire qu'elles lui parlaient avec dureté et avec colère, mais il esquivait cela en silence et avec un sourire. Un jour, il a dit à Aïcha radhiyallahu anha que « Ô Aïcha, quand tu es fâché contre moi, je le sais. » Aïcha radhiyallahu anha a demandé « Comment savez-vous cela ?» Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu que quand tu es content de moi, et qu'il faut faire un serment, eh bien, tu dis toujours par le Seigneur de Muhammad, il en est ainsi. Et quand tu es fâché contre moi et que tu dois faire un serment, eh bien, tu déclares par le Seigneur d'Ibrahim, il en est ainsi et ainsi. Aïcha radhiyallahu anha en a ri. Elle a ri en entendant cela et a confirmé ses dires en disant que « Vous avez tout à fait raison, cela est vrai ». Ensuite, il y a les histoires qui concernent Hadrat Khadija radhiyallahu anha, qui était sa première épouse la plus âgée et qui a fait de grands sacrifices pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après son décès, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a épousé des épouses plus jeunes, mais malgré cela, il n'a pas oublié sa relation avec Khadija radhiyallahu anha. Quand les amis de Khadija venaient lui rendre visite, il se levait pour les accueillir. Et si quelque chose fait par Khadija apparaissait devant ses yeux, des larmes lui montaient aux yeux. Il y a un incident en référence à la bataille de Badr. Le gendre du saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, qui n'était pas encore musulman, fut fait prisonnier lors de cette bataille. Et il n'avait pas les moyens de payer sa rançon pour être libéré. Son épouse, c'est-à-dire la fille du saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire libérer son mari, a envoyé à Médine comme rançon pour son mari un collier, le dernier souvenir de sa mère qu'elle possédait. Lorsque le collier fut présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il a reconnu ce collier et des larmes lui sont montées aux yeux. Il a dit à ses compagnons, « Je ne vous donne pas d'ordre à ce sujet car je n'ai pas le droit de le faire, mais je sais que ce collier est le dernier souvenir de sa mère pour Zainab. » Si vous pouvez le faire de bon cœur, je vous recommande de ne pas priver la fille du dernier souvenir de sa mère. Les compagnons ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle plus grande joie pourrait-il y avoir pour nous? Et ils ont donc rendu ce collier à Zainab radhiyallahu anha. L'impact des bonnes actions que Khadija radhiyallahu anha avait accomplies envers lui était si grand qu'il en parlait souvent à ses épouses. On raconte un incident à ce propos. Il arrive qu'il y ait de petites querelles entre les épouses, et même si l'épouse est décédée, si on la loue trop, cela suscite de la jalousie. On rapporte qu'un jour, le saint prophète Mohammed Bissos lui a fait l'éloge de Khadija devant Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi mentionnez-vous toujours cette vieille femme? Laissez-la tomber, oubliez-la maintenant, Allah vous a donné des femmes plus jeunes et plus belles qu'elle. En entendant cela, l'émotion a submergé le saint prophète, mais ce soit lui, il a déclaré, « Ou Aïcha, tu ne sais pas à quel point Khadija m'a servi. » Quel était son critère de haute moralité? Si nous regardons l'histoire, nous constatons que son père était décédé avant sa naissance, que sa mère était décédée durant son enfance. Il a passé ses 8 premières années sous la tutelle de son grand-père. Ensuite, il a été élevé sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Il y avait un lien de sang avec son oncle, et le père de ce dernier avait spécifiquement fait une recommandation en faveur du saint prophète, que ce soit lui, sur son lit de mort. C'est pourquoi son oncle chérissait particulièrement le saint prophète Mohammed, que ce soit lui, et prenait soin de lui. Mais sa tante ne possédait ni la fibre de la compassion, ni le sens des responsabilités familiales. Lorsque quelque chose arrivait à la maison, il arrivait parfois que la tante le donne d'abord à ses enfants et ne prenne pas soin du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, qui était encore enfant. Quand Abu Talib rentrait à la maison, au lieu de trouver son jeune neveu en train de pleurer et de se plaindre, il voyait ses enfants manger quelque chose, mais son petit-neveu, telle une montagne de dignité, était assis à l'écart, tranquillement. En d'autres termes, le saint prophète, paix soit sur lui, supportait tout avec une grande patience, même durant son enfance. L'amour de son oncle et les responsabilités familiales revenaient à la surface, et il se précipitait pour prendre son neveu dans ses bras. Il disait « Pensez aussi à mon enfant, pensez aussi à mon enfant ». Cela arrivait fréquemment. Hadrat Muslim Maud Radotranhu a rapporté à un endroit que, selon les témoins, le saint prophète Mohammed Pissos lui ne s'est jamais plaint. Son visage n'a jamais montré de tristesse, il n'a jamais manifesté d'irritation pour cette raison, et il n'y avait aucune rivalité entre lui et ses cousins. Ainsi, sa vie témoigne de la manière dont il a pris en charge l'éducation de Ali et de Jafar, ses deux cousins, même après le changement des circonstances. Et il a mis en œuvre des mesures pour leur bien-être de toutes les manières possibles. De nos jours, on voit des gens qui, même devenus adultes, se souviennent d'événements de leur jeunesse et cherchent à se venger. Mais le saint prophète Mohammed, peace be upon him, lui, a toujours agi avec bienveillance. De plus, même en atteignant un âge de sagesse, nous constatons de nos jours que certaines personnes, si elles ont dû vivre chez d'autres parents, parfois parce qu'elles n'ont pas de père, et doivent y vivre jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, ou pour d'autres contraintes, ils doivent vivre chez ses parents, et si ses parents leur font du tort, eh bien, ces personnes-là n'oublient pas ces points et se vengent dès qu'ils en ont l'occasion. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais vengé. Au contraire, lorsque l'occasion s'est présentée, le saint prophète Mohammed, peace be upon him, lui, les a pris dans ses bras, il les a éduqués et il leur a donné une place importante. Voici une illustration de sa patience parmi ses hautes qualités morales. Une fois, une femme dont le fils était décédé pleurait sur sa tombe. Le saint prophète, peace be upon him, lui, est passé par là et il a dit « Ô femme, sois patiente, la volonté de Dieu prévaut sur tout ». Cette femme n'a pas reconnu le saint prophète Mohammed peace soit lui, et elle a répondu « Si ton enfant était mort comme le mien, tu aurais su ce qu'est la patience ». Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de là en disant que « Je n'ai pas perdu un seul enfant, mais j'ai perdu 7 de mes enfants ». Ainsi, en de telles occasions, il n'exprimait ses souffrances passées qu'avec modération, sans jamais au-delà. Et cette tristesse ne le fit jamais manquer à son devoir envers l'humanité. Sa patience était telle que même lorsque Dieu lui conféra la royauté, il ne cessa d'écouter chacun. Même si quelqu'un se montrait dur, il demeurait silencieux et ne répondait jamais à la dureté par la dureté. L'histoire raconte que les musulmans appelaient le saint prophète Mohammed, peace be upon him, lui, par son titre spirituel, c'est-à-dire en l'appelant « Ya Rasulullah » au lieu de son nom. les personnes des autres religions selon leurs coutumes et les usages du pays, montrer leur respect en le nommant Abul Qasim au lieu de Muhammad. Abul Qasim était sa kunya, son surnom signifiant le père de Qasim, car l'un de ses fils se nommait Qasim et il était décédé. Une fois, un juif est venu à Médine et il a commencé à parler avec le saint prophète, paix soit sur lui, et à discuter. Et durant la discussion, il répétait sans cesse « Ô Mohammed, la chose est ainsi. Ô Mohammed, la chose est ainsi. » Le saint prophète, paix soit sur lui, répondait à ses propos sans aucune réticence. Mais les compagnons, voyant son impertinence, étaient impatients. Finalement, un compagnon n'a pu se contrôler. Il a dit à ce juif « Attention à ne pas l'appeler par son nom. » Si tu ne peux pas dire à Rasulullah, le messager d'Allah, dit au moins Abul Qasim. Le juif a retorqué, moi je ne prononcerai que le nom que ses parents lui ont donné. Le saint prophète, Mohammed bin Sosa, lui a souri. Il a dit à ses compagnons, il dit vrai, mes parents m'ont bien nommé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-le prononcer ce nom qu'il souhaite et ne vous mettez pas en colère contre lui. Sa patience était telle que parfois, lorsqu'il sortait pour une affaire, les gens lui barraient le chemin et commençaient à exprimer leurs besoins. Il restait debout jusqu'à ce qu'ils aient fini de parler. Ensuite, il continuait son chemin. Ensuite, certaines personnes avaient l'habitude de garder sa main longtemps après une poignée de main. Ils gardaient aussi leur main longtemps, même si cela n'était pas une pratique appréciable. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ne retirait jamais sa main de la leur. Toutes sortes de nécessiteux lui présentaient leurs besoins. Parfois, il donnait au demandeur ce dont il avait besoin, mais sa cupidité l'obligeait à en demander davantage. Et il satisfaisait également son désir. Parfois, les gens ne cessaient de demander, et il ne cessait de leur donner à chaque fois quelque chose. Et celui qui, surtout dans ces situations, paraissait sincère, après lui avoir offert quelque chose selon ses besoins, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui conseillait ceci à cette personne sincère. Il serait préférable que tu t'en remettes à Allah. Ainsi, une fois, un compagnon a insisté continuellement et il lui a demandé à plusieurs reprises de l'argent pour ses besoins. Le saint prophète a satisfait son désir, mais à la fin, il a déclaré que le meilleur état est celui où l'homme s'en remet à Dieu. Ce compagnon était empli de sincérité et de respect. Ce qu'il avait reçu, il ne l'a pas rendu par respect. Mais concernant l'avenir, il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Ceci est ma dernière requête à l'avenir, je ne demanderai rien à personne. » Il y a un récit concernant ce compagnon. On rapporte que lors d'une bataille, la bataille faisait rage. Sur le champ de bataille, les lances volaient, les épées s'entrechoquaient et les flèches pleuvaient de toutes parts. Les soldats étaient au corps à corps et des têtes tombées. Au cœur de cette mêlée sanglante, au moment précis où ils étaient encerclés par l'ennemi, sa cravache lui échappa des mains. Un soldat musulman qui l'accompagnait et qui était à pied a voulu se baisser pour ramasser cette cravache et la lui remettre, craignant qu'il ne lui arrive un malheur s'il descendait, lui qui était officier. Le compagnon qui était sur sa monture a remarqué ce soldat et lui a dit ceci. « Oh mon frère, je t'en conjure par Dieu, ne touche pas à ce fouet. » Et il est descendu de son cheval, il a ramassé le fouet. Ensuite, il a dit à ce compagnon, « J'ai promis au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que je ne demanderai rien à personne. Si je t'avais laissé ramasser ce fouet, même si je t'avais rien demandé verbalement, il ne fait aucun doute que cela aurait constitué une question implicite et cela m'aurait fait manquer à ma promesse. Bien que ce soit un champ de bataille, je ferai mon travail moi-même. » Même dans cette situation dangereuse, il s'est souvenu de sa promesse. Ainsi, ce sont là quelques exemples parmi tant d'autres de la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, des exemples sur sa justice, sur son respect des sentiments et de sa sollicitude envers les pauvres. Ce sont autant d'exemples à suivre. En ce qui concerne la protection des biens et des pauvres et le bon traitement des femmes, comme je l'ai dit auparavant, il se comportait bien avec ses épouses à la maison. Et avec les femmes en général, la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui regorge d'exemples sur son dévouement vers l'humanité, sur son traitement excellent de ses voisins et ses proches. Quels efforts déployait-il pour protéger les biens des gens? Quels efforts déployait-il pour cacher les défauts des autres? Que disait-il et comment agissait-il en manière de coopération mutuelle? Et comment fermait-il les yeux sur les faiblesses d'autrui? Comment couvrait-il les défauts? Et quels conseils donnait-il sur la vérité? Que disait-il pour éviter les soupçons? Que disait-il pour éviter la curiosité? Et que disait-il pour éviter le désespoir jusqu'à recommander le bon traitement des animaux et la tolérance religieuse? Ce sont là des principes qui nous offrent un parfait exemple à suivre. Comme je l'ai dit précédemment, si Dieu le veut, je vais développer ces points à l'avenir en fonction des occasions. Pour terminer, je vais présenter une citation du Messie premier al-Islam. Le Messie premier al-Islam qui déclare: cet homme qui, par son être, ses qualités, ses actions, ses œuvres, et par le puissant fleuve de ses forces spirituelles et pures, a montré un modèle de perfection complète, tant en théorie qu'en pratique, en vérité et en constance, et qui a été appelé l'homme parfait, c'est le prophète béni, le saint prophète, puis soit lui le sceau des prophètes, l'imam des élus, le dernier des messagers, la gloire des messagers, le prophète Mohammed, puis soit lui. Ô Dieu, notre Dieu bien-aimé, envoie sur ce prophète bien-aimé cette miséricorde et ces bénédictions que tu n'as envoyées à personne depuis le début du monde. Qu'Allah nous accorde la capacité de devenir de vrais musulmans suivant l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'être de ceux qui transmettent son message au monde afin d'amener le monde sous sa bannière. Qu'Allah nous en accorde la capacité. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Après la prière de Jumma, je vais diriger la prière funéraire d'une personne dont la dépouille sera présente. La dépouille est-elle arrivée? Il s'agit de la prière funéraire du regretté Laik Ahmad Tahir Saheb, qui était un missionnaire de la communauté ici au Royaume-Uni. Il est décédé récemment à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était un moussi. Il laisse derrière lui une fille et trois fils. Laik Tahir Saheb est né à Qadian au sein du foyer de Hazrat Sheikh Fazal Ahmad Saheb Batalvi. Qu'Allah soit satisfait de lui, un compagnon du Messie premier Islam. Son père avait prêté le serment d'allégeance en 1907. Après avoir terminé son éducation secondaire, Laik Saheb a dédié sa vie au service de la foi en 1959 et il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il en est sorti diplômé en 1966. Durant ses études à la Jamia, il a également obtenu ses diplômes de F.A., d'Adib Fadil et d'Arabi Fadil. Après avoir achevé son cursus à la Jamia, il a obtenu une licence de l'Université du Punjab. En juillet 1967, il fut envoyé en Angleterre en tant que missionnaire, où il a eu l'opportunité de servir comme vice-imam de la mosquée Fazal de Londres. Et il est retourné ensuite au Pakistan en 1970. Il a servi comme missionnaire en différentes localités sous l'égide du département Islam-e-Irshad, avant d'être muté au département Tasnif. Le défunt était le gendre de Maulana Abdulhamid Nouram Saheb. Par la suite, durant son service, il fut nommé enseignant à la Jamia Ahmadiyya et il a exercé des fonctions d'enseignant pendant environ 10 ans. En 1982, le défunt a été nommé au sein de la Wakalat Tabshir et il a servi comme Naib Wakil Tabshir. Parallèlement, que ce soit durant ses études ou lors de ses missions au Pakistan, il a activement servi au sein de la Khudamul Ahmadiyya ainsi que dans d'autres organisations auxiliaires. Ensuite, en 1986, le défunt a été envoyé aux États-Unis en tant que missionnaire de la communauté. Et en cette même année de 1986, feu le quatrième calife l'a fait venir ici et l'a affecté à Glasgow. où il a eu l'honneur de servir en tant que Morabbi et en tant que missionnaire. En 2005, après l'ouverture de la Jamia du Royaume-Uni, il a été nommé le directeur. La durée totale de son service s'élève à environ 59 ans. Atal Mujib Rashid Saib, l'imam de la mosquée Fazal de Londres, témoigne que le défunt était un dévoué serviteur de l'islam, un serviteur sacrifié pour le califat, un missionnaire exemplaire qui a rempli avec brio toutes les exigences de son waqfa. Et il a eu la grâce de servir la religion avec un dévouement total pendant une très longue période. Il récitait le Saint-Coran avec une voix mélodieuse et captivante. Il attirait l'attention sur les questions d'éducation et de réforme d'une manière touchante et éloquente. Là où il a servi, il a laissé d'excellents souvenirs. Il était un serviteur de la religion très apprécié qui vouait un amour et une affection sincère aux membres de la Jamaat. Dans le domaine de l'écriture, il a également accompli de nombreux services. Il accordait une attention particulière aux prières. Les murs de sa demeure étaient d'ailleurs ornés de paroles de prière et d'invocations. Le défunt possédait d'innombrables qualités. Moubarak Siddiqui Saheb relate « Je connais le défunt depuis notre séjour à Rabwa. Il était d'une nature extrêmement joyeuse et d'une grande élégance et d'une politesse remarquable. » Il vouait une dévotion sans borne au califat et au système de la Jamaat. Il conseillait toujours à ceux qu'il rencontrait de faire preuve d'une obéissance totale envers le calife de l'époque. Il portait en permanence un petit carnet dans la poche. Dès qu'il voyait ou entendait quelque chose d'intéressant ou de sage, il le notait immédiatement, peu importe la personne de qui cela venait. Depuis ses années d'étudiant, il avait l'habitude de rechercher la compagnie des aînés de la communauté. C'est ainsi qu'il se souvenait de nombreux récits de Hazrat Hafiz Mukhtar Ahmad Sahib Shahjahanpuri qu'il aimait partager lors de ses assemblées. Sa fille Quratul Ayn confie ceci, un aspect de la personnalité de mon père qui m'a particulièrement marqué et sa manière de prier. Ses supplications étaient empreintes d'une ferveur, d'une humilité, d'une confiance en Dieu et d'une proximité si tendre avec lui que c'en était singulier. Parfois, on aurait dit qu'il ne cesserait de prier que lorsqu'il aurait reçu une réponse de la part d'Allah. Elle ajoute qu'Allah le traitait avec une telle bienveillance qu'il l'informait souvent de bien de choses à l'avance à travers des rêves. Concernant la prière, il nous conseille souvent en citant ces paroles du Messie premier des Salam qui déclare que celui qui implore doit se trouver dans un état de dévouement total comme s'il était mort. Lorsqu'on implore Allah dans cet état, eh bien, il exauce la prière. Qu'Allah traite le défunt avec pardon et miséricorde et qu'il élève ses rangs. Sa dépouille est présente, je dirigerai sa prière funéraire à l'extérieur immédiatement après la prière de Juma. Le second hommage concerne les funérailles en absence de M. Sega Diallo, qui était vice-président de la région de Ségou au Mali. Il est décédé ces derniers jours. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était également un membre du système d'Al-Wasiya. Tassir Saheb, le missionnaire de la communauté, écrit que le défunt a eu la grâce d'accepter l'Ahmadiyya en 2016 après avoir écouté des programmes à la radio. Et il n'a cessé de progresser dans sa foi par la suite. C'était un Ahmadi très dévoué et actif. Il participait avec une grande générosité aux fonds financiers de la communauté. Bien qu'il habitait loin, il venait chaque jour à la mosquée pour accomplir les prières de Fajr, de Maghrib et d'Isha. Il vouait un amour et une dévotion sans borne pour le califat. Il a eu la grâce d'intégrer le système d'Al-Wasiya en 2018. Et jusqu'à son dernier souffle, il contribuait dans le fonds d'Al-Wasiya au début du mois. Une fois, pour quelque raison, il n'a pas reçu de salaire pendant 6 mois. Telle est la situation économique en Afrique. N'ayant pu verser ses cotisations, il en était profondément affligé. Finalement, par la grâce d'Allah, dès qu'il a reçu son salaire, son premier geste était de s'acquitter de ses arriérés de la Wasiya et de ses autres cotisations. Il prêchait régulièrement le message de l'islam de l'Ahmadiyya à son épouse et à ses trois fils. Grâce à ses efforts, deux de ses fils sont devenus Ahmadis. Cependant, son épouse et son troisième fils n'ont pas encore accepté le message de l'Ahmadiyya et cela le souciait beaucoup. Sa foi à l'Ahmadiyya était inébranlable. Son opinion sur les opposants et les mollahs non-Ahmadis était très claire. Il affirmait avec force qu'il ne pourrait jamais réussir tant qu'il n'accepterait pas le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Le défunt était un membre actif tant dans la prédication que dans le service de la communauté, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر